Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Jacques Nizin à la technique, Benoît Feit au micro. La Tunisie, le pays proche, comme le disait ce slogan à visée touristique voici encore quelques années, est-elle en train de réussir sa transition démocratique malgré les nombreux dangers qui la menacent? Si le terrorisme ou la crise économique ne plaident pas forcément pour un optimisme béat, il y a néanmoins de nombreuses raisons de croire en l'avenir de ce pays qui a réussi à lancer un processus de démocratisation sans précédent au Maghreb, et cela 4 ans à peine après la révolution de Jasmin. Pour explorer les différentes facettes de l'actualité tunisienne et souligner les défis qui en découlent, j'ai le plaisir de recevoir ce soir Zeyneb Benachour. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la présidente de l'Association des démocrates tunisiens au Benelux. Alors pour ouvrir cette émission, pourriez-vous tout d'abord nous expliquer comment est née votre association et nous dire également quels en sont ses principaux objectifs?
La révolution de la dignité et pas du jasmin a offert à tous les Tunisiens, tant dans le pays qu'à l'étranger, l'occasion de participer à la réussite du processus démocratique dans le pays. La DTB est née à cette époque-là, autour d'un petit noyau de Tunisiens installés en Belgique, pour certains depuis les années 70. Et alors, nous voulions restituer à la Tunisie ce que la révolution nous a donné en termes d'espoir et de dignité. Et on a décidé de participer au débat national sur le choix de société, convaincus que cela constitue un droit et un devoir pour chacun d'entre nous.
C'est aussi une association dite pluraliste, c'est-à-dire qu'elle rassemble qui exactement? Est-ce qu'il y a des profils qui sont vraiment contrastés?
En fait, la DTB est un espace ouvert à tous les démocrates tunisiens et amis de la Tunisie qui adhèrent aux valeurs progressistes et démocratiques. Voilà, donc elle est donc une association qui vise dans un esprit pluraliste et autonome à contribuer, comme je l'ai déjà expliqué, au développement d'une société tunisienne démocratique, égalitaire, solidaire et ouverte aux autres cultures.
Vous organisez quoi comme type d'activité, par exemple?
Alors, on a entamé depuis 2012 un cycle de conférences qui porte sur tous les sujets, pas forcément d'actualité, mais en rapport avec le processus démocratique en Tunisie, sur les élections, sur l'islam politique, sur quel choix économique. Il y a eu plusieurs activités dans ce sens-là. On a organisé aussi, à chaque fête anniversaire de la Révolution, une journée de bilan. Chaque fois, pour voir quels sont les enjeux, quels constats et les enjeux et les perspectives. Et on a mis l'accent sur l'aspect culturel, l'investissement culturel en Tunisie, la liberté d'expression et la liberté artistique, etc. Donc il y a eu plusieurs activités dans ce sens-là.
Vous participez donc au débat démocratique qui a lieu également en Tunisie même aujourd'hui, mais vous n'êtes pas proche d'un parti politique en particulier?
Non, pas du tout. L'aspect de apolitique de l'association, on y tient. Et les membres, ce qui nous rassemble, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'esprit démocrate et progressiste. Par la suite, nous ne votons pas tous pour les mêmes partis. Voilà, c'est important pour enrichir aussi le débat au sein de l'association.
Et c'est d'ailleurs l'intérêt de vous avoir en studio avec nous ce soir, c'est aussi pour éclairer nos auditeurs sur l'actualité tunisienne et les grands débats de société qui s'y déroulent. Pour ce faire, je vous propose d'écouter au cours de cette émission plusieurs intervenants, des interviews que nous avons préenregistrées. Je vais vous les soumettre à tour de rôle et vous demander de réagir. La première d'entre elles est une interview de Daniel Soile, qui est le délégué Wallonie-Bruxelles à Tunis. Il y est présent depuis 7 ans maintenant, soit 3 ans avant la Révolution et 4 ans après. Il nous dresse ici un tableau comparatif de la Tunisie avant et après la Révolution. Je vous propose de l'écouter et de réagir ensuite.
Pour moi, ce qui me frappe, c'est évidemment le contraste entre les deux périodes. La première période était un moment de grande surveillance. Quand on interrogeait quelqu'un dans un café ou quand on avait une conversation, où que ce soit, le premier réflexe de l'interlocuteur était de regarder d'un côté ou de l'autre pour voir si personne n'écoutait. Donc ça m'a frappé dès le début. Et donc c'est un premier aspect de cet ancien régime. Un deuxième aspect, c'est que lié d'ailleurs à cette surveillance permanente, le monde associatif était pratiquement inexistant. on admettait les associations que dans la mesure où elles étaient totalement inféodées au pouvoir. Ça n'empêchait pas évidemment que des individus, ou même parfois certains petits groupes relativement clandestins, représentaient déjà un ferment de liberté, un ferment de transformation sociale. Et je dois dire que les autorités de la communauté française, devenue entre-temps Fédération Wallonie-Bruxelles, m'incitaient à ne pas me cantonner uniquement dans une relation, je dirais, diplomatique avec les autorités, mais m'encourageaient à identifier des lieux d'indépendance, à la fois sur le plan intellectuel et sur le plan institutionnel. Donc ça m'a permis, dans les années 2008, 2009, 2010, de nouer de manière informelle et sans engager ma responsabilité de diplomate, de nouer des contacts vis-à-vis de jeunes qui se sont révélés être, en janvier 2011, les ferments de la révolution. Et donc j'avais ce contact. Il a donc été facile de les rencontrer très rapidement après le 14 janvier, qui est leur date, hein, et leur événement, et de nouer avec eux des relations d'une grande richesse. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est tout le contraire qui est arrivé. Donc la liberté était réelle. Je me souviens des personnes agglutinées aux vitrines des librairies qui découvraient enfin la couverture des livres qui avaient été interdits pendant 26 ans. Et d'une façon générale, du sourire qui se marquait sur les visages des gens qui se promenaient de long et en large sur l'avenue Bourguiba sans craindre un regard soupçonneux d'un policier, que ce soit en civil ou en uniforme. Donc j'ai vraiment ressenti de manière très personnel le changement du 14 janvier 2011 et cela donne toute la richesse du travail que j'ai pu mener par la suite.
Zeynep Benachour, Daniel Soile vient de rappeler ce climat d'extrême surveillance qui régnait en Tunisie avant la révolution. Est-ce que ce climat se faisait aussi ressentir au sein de la diaspora tunisienne en Belgique par exemple?
Tout d'abord, je voudrais confirmer donc l'impression ou les conclusions de monsieur Soile, parce que moi j'ai quitté la Tunisie en septembre 2001. Et le climat était étouffant, pourtant je n'avais aucune activité ni associative ni politique, mais on sentait la chape de plomb, chacun se méfiait de tout le monde.
Au sein même des familles par exemple?
Je dirais pas au sein même des familles, mais par rapport aux collègues de travail, quand on est dans un café, à partir du moment où on commençait à évoquer éventuellement un sujet qui pourrait être interprété critique par rapport au régime, on commençait à baisser la voix et on n'osait pas en parler devant n'importe qui. Donc oui, effectivement, il y avait une atmosphère de méfiance générale. Par rapport à la diaspora, donc il y a un livre sorti en 99 de Nicolas Beau, journaliste au Canard Enchaîné, et de Jean-Pierre Tucois du Monde. Ce livre intitulé « Notre ami Ben Ali », que je n'ai pas lu en Tunisie car il était évidemment interdit, consacre tout un chapitre à cette question. Le chapitre est intitulé « La traque des exilés », où les journalistes nous révèlent comment les consulats, ambassades et pseudo-ASBL de Tunisiens, donc notamment en France, étaient au service du régime pour traquer les réfugiés politiques et tout citoyen critique du régime. Donc la méthode chère à Ben Ali, c'était la diffamation, l'atteinte à la vie privée et comme arme de pression, à la fois le passeport tunisien et le chantage par rapport à la famille en Tunisie.
Donc c'était une véritable chape de plomb qui existait en Tunisie mais qui se prolongeait jusqu'au sein même des pays comme la France et la Belgique où la diaspora était elle-même soumise à cette pression.
Tout à fait, tout à fait. Donc les Tunisiens, on se méfiait aussi si on prend les communautés donc installées dans les pays d'accueil comme en France, en Belgique et autres. Si on prend par exemple la communauté, les Algériens, les Libanais, les Syriens, il y avait un lien, les gens se cherchaient et il y a des liens qui se créent à l'étranger, donc dans les pays d'accueil. Alors que les Tunisiens, on a jamais parler de cette communauté parce que les gens se méfiaient et du coup ils ne cherchaient pas forcément le rapport avec d'autres Tunisiens.
Dans son interview, dans l'extrait d'interview qu'on vient d'écouter de Daniel Soual, il semble dire que la révolution de 2011 est le fruit de la révolte de la jeunesse avant tout. Est-ce que vous partagez son analyse ?
Personne ne peut nier le rôle de la jeunesse. La jeunesse tunisienne a bien sûr été un acteur majeur de la révolution. Les réseaux sociaux ont joué un rôle important, mais je pense que c'est très réducteur de ne mentionner qu'eux. Parce qu'il y a d'autres acteurs, par exemple le syndicat, l'UGTT, l'Union Générale des Travailleurs Tunisiens, a joué un rôle capital dans cette révolution, tout au moins sa base et ses cadres moyens que le régime n'avait pas réussi à mettre sous contrôle aussi efficacement qu'il ne l'avait fait pour sa direction centrale. Il ne faut pas oublier non plus la contribution importante d'organisations professionnelles comme l'Ordre des avocats. Et donc, c'est la mobilisation progressive de tous ces acteurs, sur fond d'exaspération générale de l'ensemble de la population, qui a permis le succès de la révolution.
Et vous qui aviez quitté la Tunisie en 2001, c'est ce que vous nous avez dit, vous avez vu cette révolution germer avec surprise ou bien vous vous disiez que tôt ou tard ça allait arriver ?
On craignait le pire parce qu'avant 2011, il y a eu en 2008 un mouvement de protestation très fort mais qui était réprimé très très fort aussi par le régime Ben Ali. Ça s'est passé dans le bassin minier à Gafsa, etc. Et donc on sentait, et à mesure qu'on allait visiter la Tunisie, on sentait l'exaspération des Tunisiens et on sentait l'écart donc entre une minorité qui s'enrichit de plus en plus au niveau économique et beaucoup de chômage, beaucoup de frustration de la part des jeunes, notamment dans les zones défavorisées. Moi, j'étais prof de français à Siliana, dans le centre-ouest de la Tunisie. C'est une région donc défavorisée. Et je connaissais cette région, je connaissais toutes les régions autour qui sont des régions donc de campagne pauvres, etc. Et on voyait ce ras-le-bol général qui s'accumulait. Et donc, on se demandait comment ça va aboutir.
Donc, ce n'est en fin de compte pas une surprise pour vous lorsque vous avez réalisé que cette révolution, son étincelle est partie quelque part de ces zones rurales ?
Non, pas du tout, parce que...
Enfin, reculer en tout cas.
Voilà, on le sentait. Et pourquoi le bassin minier ? Parce que c'est aussi historiquement, c'est un foyer de protestation assez fort qui remonte même au temps de la colonisation. Donc, c'est une zone très... où les syndicats sont très présents et où la revendication était toujours là et la protestation. Et donc, ce qui nous a surpris plus que le déclenchement de la révolution elle-même, c'est la rapidité de la chute du régime. C'est ça la surprise.
Et les conséquences de cette révolution que Daniel Soual semble décrire comme une véritable bouffée d'oxygène partagée par l'ensemble, ou en tout cas une extrême majorité de ses citoyens, c'est la même impression que vous avez eue dans ces changements immédiats. Vous les avez observés aussi avec la même rapidité, ou est-ce que le début était plus flou vu de l'extérieur ?
Je crois qu'il y a eu un changement radical assez rapidement. Les Tunisiens se sont affranchis de la peur, autrefois omniprésente et étouffante, de la peur de se opposé au pouvoir, à quelque échelon que ce soit, de la peur de refuser, de la peur de revendiquer. Ça, c'était assez rapide. Le deuxième changement ou le deuxième acquis de la révolution, c'est que les Tunisiens se sont appropriés la liberté d'expression. Et ça, c'est magnifique. Tous les sujets sont désormais sur la place publique. On peut débattre et on débat de tout. L'humour s'est libéré, la création artistique foisonne et c'est magnifique. Mais hélas, il y a toujours un petit mais quelque part. Une population muselée depuis des décennies et qui passe du rien au tout. Peine à trouver, si je puis dire, le juste milieu. On assiste maintenant également, au nom de la liberté d'expression, à des atteintes à la vie privée, à la diffamation, à des médias qui privilégie le sensationnel et le polémique plutôt que l'analyse et le débat véritable. Donc, il y a un autre changement, et non le moindre, c'est qu'une société civile très dynamique s'est créée à travers toutes sortes de mobilisations locales ou plus larges et à travers le développement d'un très grand nombre d'associations. La société civile tunisienne est là, bien là, motivée, mobilisée et déterminée, et ça c'est un grand acquis.
Je vous propose à présent d'écouter un deuxième extrait d'interview. Il s'agit d'une interview de Hansa Bentarjem, qui est journaliste, correspondante à Tunis pour la version en ligne du journal Le Monde, lemonde.fr donc. Elle nous parle ici des forces en présence au sein du gouvernement tunisien. Nous lui avons tout d'abord demandé si le principal parti de ce gouvernement, Nida Atounès, qui est aussi celui du nouveau président, Beji Caïd Essebsi, est un parti que l'on peut qualifier de laïque, ce qu'on a pu lire dans la presse par endroits. Je vous propose d'écouter sa réponse et de réagir juste ensuite.
Ils ont été présentés dans les médias comme les laïcs contre les islamistes. On a eu beaucoup cette question-là. Ce n'est pas des laïcs. Hein,
et qui sont... Pourquoi ?
Ils s'en défendent d'abord. Quand on a un parti qui se dit qu'il n'est pas laïque, il faut le croire. C'est pas juste une blague. Mais... Et là, arrivé au pouvoir, il a fait sa campagne contre les islamistes, il les a présentés comme des terroristes, etc. Quelques jours après, fin des élections, alliance gouvernementale. Donc, on se pose des questions aussi. Il y a aussi des partis qui sont dans le gouvernement, comme l'UPL, qui est un parti d'un homme d'affaires. On l'appelle un peu le Berlusconi tunisien, parce qu'il a eu beaucoup d'argent après la guerre libyenne, on comprend pas comment, et il est arrivé, il s'est présenté aux premières élections de la constituante, il a eu aucun siège, beaucoup d'affiches, beaucoup d'argent, on n'a rien vu. On a eu, mais après, dans la deuxième élection, il a eu 16 sièges environ. Et il a juste avant, il a acheté un club de foot, un des plus importants du pays. Donc il y a ce mélange-là aussi entre milieu d'affaires, milieu politique qui est en train de se mettre en place, qui peut être dangereux au niveau des conflits d'intérêts. Donc on a une alliance gouvernementale hétéroclite entre un parti qui est constitué par une alliance, par Nida Atounès, une alliance anti-Nahda composée de certains qui étaient plutôt libéraux, d'autres du RCD, le parti de l'ancien régime, des indépendants. On a un parti qui est constitué de milieux plutôt affairistes, qu'on ne comprend pas d'où vient l'argent, etc. Un parti néolibéral qui est FR Tounes, et Nahda, un parti islamiste. Donc tout ça compose une alliance gouvernementale et on ne sait pas comment ça va marcher. Donc quelle est la cohérence idéologique de programme de tout ça, ça on ne sait pas comment ça va se passer. Donc il y a une cacophonie déjà à ce niveau.
Est-ce qu'il y a une crainte de se voir confisquer les acquis démocratiques de la révolution avec l'arrivée au pouvoir de cette coalition ?
Il y a toujours des craintes. Surtout, en fait, après l'attentat, on est en train d'assister à un développement d'un discours ultra-sécuritaire. Les problèmes sécuritaires existent, il ne faut pas le nier. Sauf que comment les traiter en gardant l'équilibre avec les libertés? Comment ne pas menacer les libertés en invoquant la menace terroriste? C'est ça l'enjeu principal. Et quand on discute une loi antiterroriste, elle a été discutée juste le jour même de l'attentat. Elle était en discussion au moment de l'attentat. Quand on discute une loi antiterroriste juste après un drame comme celui-là, il y a beaucoup de risques que ce soit l'émotion qui prenne le dessus et qu'on fasse passer des trucs, des articles de loi qui sont assez dangereux pour la loi, pour la liberté d'expression, pour la liberté des partis, etc., etc.
En tant que journaliste aujourd'hui, vous avez le sentiment que la liberté d'expression vous est totalement acquise ou qu'elle doit encore être farouchement défendue dans votre pratique professionnelle ?
Elle n'est jamais acquise, elle est toujours à conquérir, la liberté.
Zeyneb Benachour, une conclusion que partagent beaucoup de Tunisiens, effectivement, la liberté n'est jamais acquise, elle reste toujours à conquérir. Aujourd'hui, quand on voit l'étendue et surtout l'aspect hétéroclite de ce gouvernement que vient de nous décrire Hansa Bentarjem, est-ce qu'on peut d'abord se dire que ce gouvernement est viable ?
En fait, la fragilité de ce gouvernement, c'est qu'il repose pour l'essentiel sur l'association dictée par les circonstances de deux grands partis, Nida Atounès et Nahda, dont les bases et les électorats respectifs sont viscéralement opposés et ont beaucoup de mal à digérer cette coalition. Mais, par ailleurs et surtout, il ne faut pas oublier qu'aux yeux de la grande majorité de la population, la pierre de touche de la crédibilité d'un parti politique, quelle que soit son idéologie affichée, ce sera sa capacité à améliorer la situation économique et plus particulièrement à créer massivement des emplois dans toutes les régions du pays. Après tout, c'est cela, plus que toute autre chose, qui a conduit à la révolution.
Est-ce que ça, c'est la priorité de ce gouvernement actuel ?
Pour le moment, on a du mal à cerner quelles sont les priorités du gouvernement actuel. Il y a, des circonstances et des facteurs, notamment, comme l'a évoqué la journaliste, donc le problème de la sécurité, le fait terroriste, donc qui est une réalité, notre frontière assez fragile, avec la Libye, le chaos en Libye. Il y a un très très grand nombre de migrants qui se sont réfugiés en Tunisie,
qui viennent d'Afrique subsaharienne.
Et donc la Tunisie se retrouve confrontée à tout cela et l'exécutif se retrouve donc à gérer tous ces problèmes à la fois. Donc voilà.
Votre regard sur la liberté fondamentale, comme on a l'habitude de le dire en Tunisie aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment qu'un retour en arrière serait possible sur ce terrain-là ?
Rien n'est acquis. Donc il faut être vigilant.
Dans un contexte post-attentat terroriste, au musée du Bardo notamment, est-ce que ça ne risque pas de renforcer aussi quelque part un retour au sécuritaire ?
Quand je viens de le dire, la menace terroriste est une réalité. Le chaos en Libye est un facteur aggravant. Mais comment peut-on concilier l'état de droit et le respect des libertés fondamentales avec la lutte contre le terrorisme ? La question ne se pose pas qu'en Tunisie. On est tous concernés, en Europe, en Tunisie et ailleurs. D'ailleurs, le projet de loi dont parle la journaliste, c'est un projet de loi pour la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d'argent, qui était soumis par le gouvernement tunisien le 26 mars donc dernier à l'Assemblée des représentants du peuple. Ce projet, il a été jugé liberticide et contraire à l'esprit de la Constitution par le syndicat des journalistes tunisiens. Il y a Eric Goldstein, directeur adjoint de la division Moyen-Orient et Afrique du Nord du Human Rights Watch, a déclaré que, je cite, « certaines dispositions du projet de loi risquent de mener à d'importantes violations des droits humains ».
Bref, on n'est pas complètement rassuré de ce côté-là.
Rien n'est acquis, il faut rester vigilant.
Je vous propose à présent, parce que l'émission avance très très vite, d'écouter un dernier intervenant, et pas des moindres, vous le connaissez bien, vous l'avez reçu récemment à l'ADTB, à l'Association des démocrates tunisiens au Benelux. Il s'agit de Youssef Seddik, un grand intellectuel du pays, peut-être trop peu connu à l'extérieur des frontières tunisiennes. C'est peut-être l'occasion justement de le découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas. Il est helléniste, anthropologue du Coran, auteur de nombreux ouvrages, et c'est un homme qui plaide depuis longtemps pour un aggiornamento de l'islam. On l'écoute et je vous propose de réagir juste après.
Maintenant, ce qui se passe en Tunisie, dans tous les pays musulmans, c'est qu'on impose à tout le monde, et surtout à cet espace horizontal, à cet espace public, on impose la conviction de l'islam, que je peux faire mienne, mais elle n'est pas imposable dans l'espace horizontal. Seul l'espace vertical, ou singulier que je suis, s'adresse à un singulier absent, qui est Dieu. Seule cette foi-là peut faire une société paisible, faire une société pacifique, faire une société où le coiffeur juif, je lui donne ma tête. Et il me coiffe et je m'en vais, sans avoir la seule crainte. Parce qu'il y a beaucoup de coiffeurs juifs, je ne donne pas l'exemple par hasard. En Tunisie, à Tunis, il y a beaucoup de coiffeurs juifs que nous aimons beaucoup. Et la question de « c'est mon ennemi de la foi » doit être absolument exclue. Prier individuellement, surtout que l'islam nous le permet. L'islam est différent du christianisme et différent du judaïsme en ceci qu'il a aboli le temple, le sanctuaire et l'église. Il n'y a pas de somme. Chacun, quel que soit son niveau de savoir, quel que soit son niveau de piété, est seul devant un transversal qui s'appelle le divin. Il faut développer cette idée. C'est vraiment le moment, parce que la Tunisie a eu la chance d'avoir une constitution qui institue la liberté de conscience, la seule dans tous les pays musulmans, qui dit que chacun peut avoir la conscience qu'il veut, la religion qu'il veut. Bon, là, on doit prendre ça au mot et dire que l'espace public doit être sauvé, doit être neutralisé, doit être l'espace où seules les choses mondaines du monde doivent être objet d'échange entre nous. Je te donne un truc, je te donne ma fille, tu enseignes à mon enfant, je t'achète un truc, je te donne ma tête à coiffer, etc., etc. Rien d'autre. Il ne doit pas impliquer la question de la foi et la différenciation de la foi.
Zeynep Benachour, je le rappelle, vous êtes la présidente de l'Association des démocrates tunisiens au Benelux. On entend ici Youssef Sadik plaider pour justement un aggiornamento de l'islam, une forme, peut-être pas de laïcité, mais de sécularisme, de sécularisation à tout le moins. Mais est-ce que cette question, la question de la place de la religion dans la société tunisienne, est une priorité aujourd'hui au pays ?
Cette question, je crois qu'elle a été théoriquement résolue dans le projet de la Constitution, dont la Constitution a adopté en janvier 2014. Et si vous permettez, je vais vous citer l'article 6 de la Constitution, qui dit « L'État est le gardien de la religion. Il garantit la liberté de conscience et de croyance, le libre exercice des cultes et la neutralité des mosquées et des lieux de culte de toute instrumentalisation partisane. L'État s'engage à diffuser les valeurs de la modération et de la tolérance » et à la protection du sacré et l'interdiction de toute atteinte à celui-ci. Il s'engage également à l'interdiction de la lutte contre les appels au takfir, l'apostasie, et l'incitation à la violence et à la haine. Donc, la religion est considérée théoriquement comme une question du fort intérieur, une affaire personnelle d'ordre privé. Mais n'oublions pas que cette constitution est le fruit d'un consensus et que le chantier le plus important reste celui des lois qui mettraient en pratique cette constitution. Il faut voir en pratique ce que cela donnera. Il reste des ambiguïtés qui peuvent être mal interprétées. Par exemple, comment définir le sacré ? À partir de quel moment porte-t-on atteinte au sacré ? Etc. Donc, encore une fois, il faut rester vigilant.
Dans l'interview réalisée avec Youssef Sadik, on n'a pas pu en garder l'extrait ici, mais il y a un passage intéressant où on lui pose la question de savoir, en fin de compte, Youssef Sadik, vous plaidez pour une certaine forme de laïcité. Et à ce moment-là, il répond, écoutez, la laïcité est un concept trop français. Je suis plus partisan de la sécularisation. Est-ce que cette réflexion est anodine ou pas ? Parce qu'on sait que le régime Ben Ali, qui a donc duré pendant 26 ans, était axé par les Occidentaux comme un régime laïque. Est-ce que ça n'a pas eu tendance à brouiller un peu les pistes ou à faire en sorte que ce terme laïque, laïcité, soit devenu tabou aujourd'hui en Tunisie?
En fait, c'est ce que je voulais vous dire. Le terme laïcité ou laïque est devenu très connoté d'une forme de suivisme du colonialisme, donc de l'ingérence française dans la vie des Tunisiens. Une grande majorité en Tunisie a préféré le terme séculier. Par la suite, par rapport au régime Ben Ali, bien sûr, en Occident, on a fait la propagande du régime Ben Ali en le présentant comme laïque, défenseur des droits des femmes, etc., alors que la réalité est tout autre. Ben Ali a joué à son arrivée au pouvoir sur l'islamisation par le haut de la société tunisienne, rappelant qu'il a instauré l'appel à la prière, donc à la télévision, que le premier voyage qu'il a effectué, c'était un voyage, un pèlerinage, la Omra, et qu'il se voyait donc comme faisant le pèlerinage. On a eu droit aux images à la télé, et donc il se présentait lui-même comme le défenseur de l'islam, et il a toujours joué cette ambiguïté. Donc, la société tunisienne, c'est une société conservatrice, et je crois que le débat de la place de la religion était et le débat identitaire donc lancé juste après la Révolution était une digression très dangereuse parce qu'elle a détourné l'attention des Tunisiens et de l'essentiel, à savoir le pourquoi de cette révolution de la dignité, à savoir les revendications d'ordre économique et social.
Et c'est la présidente d'une association progressiste qui nous le dit, Zeynep Benachour. Vous êtes donc la présidente de l'association des démocrates tunisiens au Benelux. On vous remercie d'avoir pris le temps de venir nous éclairer en studio au sujet de l'actualité tunisienne et des grands enjeux de la société tunisienne. Vous êtes la bienvenue quand vous voulez.
Merci.
Merci également à vous, chers auditeurs et chères auditrices, de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour un nouveau rendez-vous de la laïcité. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir.